بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 13 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. On est rendu maintenant dans le premier chapitre au sujet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith numéro 19. الحث على الإحسان إلى المخلوقات، l'incitation à faire du bien et à être bienveillant envers les créatures. Ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a rapporté un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فغفر لها به فغفر لها به. Donc le hadith est rapporté selon Abi Huraira. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y avait une femme. Et cette femme, c'était une prostituée. Et elle a vu un chien dans une journée chaude, où il faisait très chaud. Elle a vu un chien qui tournait autour d'un puits. Mais il était assoiffé et sa langue, elle pendait tellement il avait soif. Alors, elle a pris une de ses chaussures pour descendre et prendre de l'eau pour faire boire ce chien. Et elle a été pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce geste. Et donc ici le cheikh il explique, cheikh al-Fawzan il dit « قال إن امرأة بغيا المرأة البغي هي الزانية قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنا وهذه المرأة من بني إسرائيل ممن كان قبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أحيانا عن بني إسرائيل بما فيه عبرة وعظة بما فيه عبرة وعظة لنا وهذه المرأة كانت تمارس الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة وقد كانت ذات يوم تسير في طريق أدركها العطش فنزلت في بئر لتشرب منه فشربت فصعدت من البئر فلما خرجت منه رأت كلبا يلحث من شدة العطش وفي رواية يأكل الثرى من العطش فرحمته فنزلت في بئر مرة ثانية فنزعت موقها الموق هو الخف الذي يلبس على القدم فنزعته لعدم وجود إناء أو لعدم وجود الإناء الذي يحمل فيه الماء فملأته ماء فأمسكته في فمها ثم صعدت من البئر فسقت الكلب فشكر الله لها هذا الإحسان إلى هذه البهيمة فغفر لها هذه الخطيئة. Donc ici le cheikh il explique que cette femme c'était une femme, en arabe on dit imra'atul baghi. Al baghi c'est un autre mot pour dire zina ici. Ça signifie zina. Par exemple al bira. Comme c'est mentionné dans le verset 33 dans Sourate An-Nur, et ne forcez pas vos filles à Al-Bira. Al-Bira, c'est-à-dire le zina. Et Yani, Al-Zina, ne forcez pas vos esclaves au zina, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et ici, la femme faisait partie des femmes des fils d'Israël. Donc, elle fait partie des fils d'Israël, c'est-à-dire de la tribu. Des fils d'Israël, de ceux qui vivaient avant avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il nous raconte des histoires qui sont arrivées parmi les fils d'Israël comme une leçon pour nous, comme un exemple pour nous. Et cette femme, elle pratiquait donc ce péché-là qui fait partie des grands péchés, qui est le zina, la fornication, l'adultère. Et c'est parmi les grands péchés, les grandes perversités et les formes de choses qui sont détestables et dégoûtantes parmi les péchés. Et ici, le cheikh, il dit qu'un jour, elle marchait sur un chemin, puis elle a trouvé qu'elle avait soif. Elle a trouvé un puits, elle est descendue dans le puits pour boire. Puis elle est remontée, et en remontant, elle a vu un chien qui était assoiffé. Et tellement il avait soif qu'elle le voyait manger la terre. Alors, elle a eu pitié pour lui. Et elle est redescendue une deuxième fois dans le puits, puis elle a retiré sa chaussure, ou qu'est-ce qu'elle portait dans ses pieds, pour l'utiliser, parce qu'elle n'avait pas de contenant pour mettre de l'eau dedans. Donc elle a utilisé sa chaussure ou bien qu'est-ce qu'elle portait dans son pied, al-khuf. Comme par exemple, des fois les gens ils portaient à l'époque des chaussettes en cuir. Donc c'est comme des chaussures de cuir ou bien des chaussettes en cuir. Elle l'a retiré de ses mains, elle l'a retiré de ses pieds, elle l'a utilisé pour mettre de l'eau dedans. Elle l'a tenu avec sa bouche, puis elle est remontée en haut du puits, à l'extérieur du puits, pour donner à boire à ce chien. Et elle a donc été pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce geste de bienveillance qu'elle a eu envers cet animal. Allah lui a pardonné son péché à cause de ça. Et le cheikh, il dit, « فَهَذَا الْحَدِثْ فِيهِ فَوَائِدَ عَظِيمَةً ومنها فضل الإحسان إلى البهائم وأنه يجب على الإنسان أن يحسن عليها بإطعامها وسقيها وتقديم ما تحتاج إليه وفيه فضل سقي الماء للعطشان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وكذلك البهائم. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce hadith là, il mentionne des choses dans lesquelles il y a des points bénéfiques très importants, des grands points qui sont très très bénéfiques. Parmi ces points là, le mérite de faire preuve de bienveillance envers les animaux. Et le fait qu'il est obligatoire pour nous, les êtres humains, de faire preuve de bonté envers les animaux en les nourrissant, en les abreuvant et en leur fournissant tout ce qu'ils ont de besoin. Naam. Même si la salive du chien est najis, elle peut le nettoyer puis le remettre dans son pied. Oui, c'est ça. Et même si c'était un contenant, tu peux toujours le purifier aussi quand même, comme tu dis, avec une foi, avec de la terre. On n'est pas arrivé encore à ce point-là, donc on va l'expliquer, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il explique que on voit que on doit donc s'occuper bien des animaux. Il ne faut pas les négliger. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser, par exemple, puisque ce sont des animaux, on peut les traiter n'importe comment. On n'est pas obligé d'avoir pour les animaux de la miséricorde, ou bien de leur donner des choses. Il y en a des gens comme ça, ils sont cruels envers les animaux. Donc ça, c'est pas permis en islam. Et le cheikh, il explique que il dit ça montre également le mérite qu'il y a dans le fait d'abreuver quelqu'un qui est assoiffé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit, n'importe quel croyant qui a abreuvé un croyant qui était assoiffé d'une gorgée d'eau, Alors Allah va l'abreuver au jour de la résurrection de Ar-Rahiq al-Makhtoum. Ar-Rahiq al-Makhtoum, c'est un breuvage que Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux croyants dans le paradis. Toi, tu aimes le 7-Up, toi? Donc, toi, tu aimes ça, le 7-Up? Donc, tu penses que le 7-Up, c'est comparable à Rahiq al-Makhtoum? Mon frère, il n'y a pas de comparaison possible. On ne peut même pas imaginer. Et il y a un breuvage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith, que les gens vont boire au jour de la résurrection, dans l'Al-Hawd, et il est plus doux que le miel, et sa couleur est plus blanche que le lait. Et il dit, une fois que quelqu'un en a bu une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif par la suite. Donc ça, tu ne peux pas comparer avec n'importe quel autre breuvage que tu peux boire dans ce bas monde. Et j'essaie de voir, parce que dans le Surat al-Mutaffifin, il y a la mention de Ar-Rahiq al-Makhtoum. Yusqawna min Ar-Rahiq al-Makhtoum, le verset 25. Khitamuhu misk. Et la traduction qu'ils ont fait de ce verset-là, ça dit on leur sert à boire un nectar pur. Donc, Ar-Rahiq, c'est le nectar, et Al-Makhtoum, ça veut dire qui est cacheté. Qui est cacheté. Hein? Donc, c'est un nectar cacheté. C'est ça la traduction de Ar-Rahiq al-Makhtoum. Et donc, il dit, ce qu'on dit dans ce hadith-là, à propos du fait de donner à boire à un croyant, c'est également vrai pour un animal. Hein? C'est également vrai pour un animal. Donc, si dans le hadith, on a mentionné le fait que quelqu'un, un croyant, donne à boire à un croyant, et que ça s'applique à l'animal, c'est sûr que ça s'applique aussi à celui qui n'est pas croyant. Hein? Et le cheikh il dit, وفي هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه يغفر الذنوب ولو كانت الكبائر دون الشرك فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال ما دون ذلك يعني دون الشرك فهذه امرأة تمارس كبيرة قبيحة من كبائر الذنوب فغفر الله لها هذا فيه رد على الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام فيكفر بذلك فهذا مذهبهم والمعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين وهذا من أصول المعتزلة وأهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر ولكنه ينقص إيمانه بالذنوب كما أنه يزيد إيمانه بالطاعات فالإيمان يزيد وينقص ولا يزول بالمعاصي التي دون الشرك وإن كانت كبائر ولكنها تنقص الإيمان وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هي مسألة مرتكب الكبيرة وبيان أن الله سبحانه يغفر له إذا شاء سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique le point, je pense que ça va répondre un peu à ta question. Il dit que on voit aussi dans ce hadith la vaste miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il pardonne tous les péchés, même si ce sont des grands péchés, du moment que c'est moindre que le shirk. C'est-à-dire pour quelqu'un qui meurt sur un péché sans avoir demandé pardon ou sans s'être repenti avant sa mort. Parce que le shirk, Allah il le pardonne à celui qui se repentit du shirk. Mais si tu meurs sur le shirk, tu ne peux pas être pardonné parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48, dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Et quand il dit ici qui est moindre que cela, c'est-à-dire moindre que le shirk. Et donc, tout péché qui est moindre que le shirk, comme par exemple le zina ou d'autres péchés, par exemple, dans ce genre-là, le meurtre, le zina, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des péchés qui sont moindres que le shirk. Et donc, si quelqu'un, par exemple, meurt sur un péché qui est moindre que le shirk, comme cette femme, par exemple, qui pratiquait le zina, qui fait partie des grands péchés parmi les grands péchés, et Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré ça, l'a pardonné à cause de ce geste qu'elle a posé. Il y a donc la réfutation des khawarij dans ce hadith, qui, eux, considèrent que celui qui a commis un grand péché parmi les grands péchés, même si c'est moindre que le shirk, ils considèrent que il est sorti de l'islam complètement et qu'il a commis un acte de kufr qui le fait entrer en enfer pour l'éternité. Et donc ça, c'est la voie des khawarij. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils disent non, celui qui fait un grand péché, il ne va pas être considéré kafir dans ce bas monde. Il entre dans un niveau ou un degré entre les deux. C'est-à-dire qu'il ne va pas être mécréant, puis il ne va pas être croyant. C'est comme s'il est entre les deux. Ça, c'est une bid'a qu'ils ont inventée, les Mu'tazila. Al-Manzila, ben al-Manzilatain, c'est-à-dire le degré entre les deux. Et ça fait partie de leur fondement dans leur religion, dans leur croyance. C'est la secte des Mu'tazila. Les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, par contre, eux, ils disent, quiconque a commis un grand péché parmi les grands péchés, du moment que c'est quelque chose qui est moindre que le shirk majeur ou moindre que le kufr majeur, alors à ce moment-là, on dit la personne, on va pas la déclarer comme étant mécréante, plutôt on va dire que c'est un musulman, un croyant qui a la foi faible. Et c'est ses péchés qui ont affaibli sa foi. Parce que la foi, elle diminue avec les péchés et elle augmente avec les actes d'obéissance. Donc, il dit que la foi, elle augmente et elle diminue, et elle peut donc diminuer par les péchés, mais elle ne va pas disparaître complètement. Tant que ce n'est pas du shirk majeur ou du kufr majeur. Hein? Donc, il dit, même si c'est des grands péchés, ça ne va pas annuler complètement la foi de quelqu'un, mais ça va la faire descendre ou la faire baisser. Et donc, dans ce hadith-là, on voit donc un des fondements parmi les fondements d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a sur ce sujet-là. Et c'est donc une question importante. C'est un sujet important qui est la question qu'on appelle la question de celui qui commet un grand péché. Et qu'est-ce qui arrive avec lui dans l'au-delà? Et qu'est-ce qui arrive avec lui dans ce bas monde? Ça, c'est un des sujets parmi les sujets dont les gens de la Sunna ont clarifier la position par rapport au texte du Coran et de la Sunna, et les gens de Bid'a ont divergé avec eux sur ça. Les gens de Bid'a ont adopté d'autres positions. Parmi les sectes qui ont dévié, les Khawarij, les Mu'tazila et les Murji'a. Les Murji'a, eux, c'est l'autre opposé. Ils disent, si tu fais n'importe quel péché, même le shirk, tu ne vas pas annuler ta foi, tu vas rester croyant tout le temps. Yani, ça c'est un autre extrême. Et le cheikh, il dit... Hein, Naam, tu voulais dire quelque chose? Ça dépend, en fait, de cette ignorance-là. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, parmi les musulmans, il tombe dans une forme de shirk ou une forme de kufr, et qu'il ignore que c'est du shirk ou du kufr, est-ce que, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire à son sujet? Et les ulama, ils disent à ce sujet-là que ça dépend, en fait, de la sorte d'ignorance que cette personne-là avait. Si c'est une ignorance qui est justifiée parce qu'elle n'avait aucun accès à la science et elle n'avait aucun moyen de pouvoir l'apprendre, alors dans ce cas-là, elle sera excusée. Mais si c'est une ignorance qui était due à son insouciance ou qui était due justement à sa négligence personnelle, du fait qu'elle n'a jamais fait d'effort pour apprendre, alors que la science était disponible et que la science était à portée de main, mais qu'elle n'a pas fait d'effort pour chercher la science. Alors, dans ce cas-là, elle ne sera pas excusée pour cette ignorance-là. Ça, c'est... Comme je te dis, c'est la même chose. Que ce soit à un tel endroit ou à un autre, c'est la même chose. Ça dépend du type d'ignorance de la personne. Ça dépend du type d'ignorance de la personne. Si la personne, elle a suivi ses passions, puis elle a suivi aveuglément les gens qui l'ont égarée, elle n'a jamais essayé de chercher par elle-même la vérité, alors qu'elle aurait pu le faire, mais c'est que elle était indifférente ou insouciante ou paresseuse. Hein? Elle n'a pas cherché à connaître. Alors dans ce cas-là, peut-être que son ignorance ne sera pas excusée. Tandis que si la personne, elle était privée de la science parce qu'il n'y avait aucune référence ou aucune ressource, et les seules personnes à qui elle pouvait aller demander sur la religion, c'était des personnes qui avaient des croyances déviées ou des égarements ou du shirk et qui lui faisaient croire que ça c'était correct. Et qu'elle, parce qu'elle n'avait personne d'autre à qui poser la question, et elle ne connaissait pas l'arabe, ou elle ne connaissait pas la science, elle ne pouvait pas chercher ailleurs, et qu'elle a cru en ces gens-là parce qu'elle pensait que c'était des gens en lesquels elle pouvait faire confiance, parce que c'est des gens qui prétendaient parler au nom de l'islam, puis qu'elle a été égarée par eux. Donc dans ce cas-là, c'est possible aussi qu'elle soit excusée. Wallahu a'lam. Après le cheikh, il dit « وَفِيهِ أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَهَذِهِ إِمْرَأَةٌ أَحْسَنَتْ إِلَى هَذِهِ الْبَهِيمَةِ فَسَقَتْهَا عَلَى عَطَشٍ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهَا إِثْمَ هَذِهِ السَّيِّئَةِ الْقَبِيحَةِ بِسَبَبِ الْحَسَنَةِ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا والله جل وعلا يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر يعني سواء كانت الكبد الرطبة من الأدميين أو من البهائم. Donc le cheikh il explique que les bonnes œuvres elles font également effacer les mauvaises. Et donc par exemple cette femme elle a fait une bonne action envers ce chien qui était assoiffé, elle lui a donné à boire. Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça, lui a effacé le péché mauvais qu'elle avait commis à cause de cette bonne action. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, rapporté selon Abi Dharr par l'imam al-Bukhari, fait suivre le péché par une bonne action, ça va l'effacer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela aussi dans le Coran, dans le verset 114 dans Surat Hud. Il dit, établis la salat aux deux extrémités de la journée et une partie de la nuit. Et il dit, les bonnes œuvres font partir les mauvaises ou effacent les mauvaises. Et c'est un rappel pour ceux qui se rappellent. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les péchés quand tu fais des bonnes œuvres. Ça fait que ça efface les mauvaises. Quand tu fais des bonnes œuvres, ça efface les mauvaises. Et quand quelqu'un avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on a une récompense même pour les animaux, hein, si on s'en occupe? Il a dit, il y a une récompense pour toute foi humide dont tu t'occupes, hein, ou pour lequel tu fais du bien. Et un foie humide, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout être vivant. Parce que c'est une expression, yani, kabidin, ratbatin. Kabid, al-kabid, c'est le foie. Et ratba, ça veut dire humide, frais. Hein? Ça veut dire quand la personne est vivante, son foie est frais. Donc c'est une expression, en fait. Et des fois, on se réfère au foie par rapport à la vie, hein? Pour dire que quelqu'un est vivant ou mort. Même en créole, par exemple, on dit, pour dire quand quelqu'un il a été, on l'a tué, ça dit, on dit, yo fan foal. Yo fan foal, ça dit, ils ont fendu son foie. C'est pour dire qu'ils l'ont tué, tu vois. Donc, le foie, c'est un organe vital. Donc, il dit ici, donc, peu importe, du moment que l'être en lequel tu as fait du bien ou auquel tu as fait du bien, il a un foie qui est frais, un foie qui est humide, hein, et que ce soit parmi les êtres humains ou parmi les animaux, tu auras une récompense pour ça. Donc ça, c'est la grandeur de l'islam. Hein? C'est la miséricorde de l'islam. Allahu Akbar. Donc le cheikh, il dit ensuite un autre hadith, le hadith numéro 20. Il dit, وَقَالَ دَخَلَتِ النَّارِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَّاشِ الْأَرْضِ. قال الزهري لئن لا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجاه. Le hadith en question, rapporté par Al-Bukhari, il est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Ibn Omar radiallahu anhuma. Et la parole de l'imam Az-Zuhri qui suit la parole, c'était mentionné par l'imam Muslim. Il dit dans ce hadith qu'une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a attaché et elle ne l'a pas nourri et elle ne l'a pas laissé détacher pour qu'il puisse aller manger, hein, des bêtes sur la terre. Donc ça veut dire que yani, elle l'a attaché sans lui donner à manger, donc elle l'a condamné à mourir. Hein? Et ça, c'est de la cruauté. Ça, c'est de la cruauté, subhanallah. Et donc, le cheikh, il dit, « هذا الحديث على عكس الحديث الذي قبله. فها هنا امرأة أساءت إلى حيوان. فقد كان عندها هرة حبستها عن الخروج لطلب الرزق. ولم تؤمن لها ما يبقي على حياتها حتى هلكت هذه الهرة. وهذه جريمة وإساءة إلى هذا المخلوق. فدخلت النار بسبب هذه السيئة. وليس معنى ذلك أنها كفرت. فقد يدخل النار من هو مؤمن إذا كان عنده ذنوب. ولكنه لا يخلد فيها فيعذب فيها إلى ما شاء الله ثم يخرج منها فلا يخلد في النار إلا الكفار. Donc ici ce hadith, le cheikh il dit, cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit ce hadith là c'est le contraire de celui qui était mentionné auparavant. Il y a une femme ici, elle a mal agi envers un animal, elle avait un chat. Puis elle l'a attaché, elle l'a empêché de sortir pour aller chercher sa subsistance, et en même temps, elle ne lui a pas fourni ce qui est nécessaire pour que ce chat puisse rester en vie. C'est comme si, par exemple, quelqu'un il a un chat chez lui, puis il part en voyage, il le laisse dans la maison, puis il ne donne pas à ce chat rien pour manger, rien pour boire. Et donc, c'est comme s'il l'abandonne à sa mort, comme ça. Et donc, yani, le cheikh, il dit donc, le chat, il est mort à cause de ça. Et ça, c'est un crime. Le cheikh, il dit ça, c'est un crime et c'est un mauvais agissement envers une créature. Et donc, elle est rentrée en enfer à cause de ce péché-là. Hein? C'est-à-dire que des fois, les êtres humains, ils peuvent faire du mal à d'autres personnes ou à d'autres animaux, à des animaux. Et peut-être que dans ce bas monde, ils n'auront pas de punition. Parce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont fait du mal aux autres, puis ils n'ont pas été attrapés par la police ou bien par la justice. Et donc le résultat, c'est que ces gens-là, ils vivent et personne ne leur demande rien comme compte ou quoi que ce soit, parce que ils ont échappé, disons, à la justice, comme on dit. Mais même s'ils ont échappé à la justice des hommes, ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Du moment qu'ils ne se sont pas repentis de ce péché-là, s'ils ont commis ce péché ou ce crime et qu'ils n'ont pas été punis, eh bien, c'est sûr qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leur punition. La punition qu'ils méritent pour le crime qu'ils ont commis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Et le cheikh, il dit que, donc cette femme, elle est entrée donc en enfer à cause de ce péché-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est devenue mécréante. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam disent telle personne est entrée en enfer pour tel péché ou telle chose, à moins que ce n'est pas du kufr ou du shirk majeur, si c'est un péché parmi les péchés, si on dit qu'il est entré en enfer pour ce péché-là, ça ne veut pas dire qu'il sera en enfer pour l'éternité. D'accord? Et il explique, le cheikh, que c'est possible que quelqu'un rentre en enfer alors qu'il est croyant. C'est-à-dire qu'en enfer, il y aura des croyants aussi, pas seulement des mécréants, pas seulement des kuffars et des mouchriquins. Il y aura en enfer des croyants, des musulmans, des gens qui ont commis des péchés. Que Allah nous en préserve. Et il dit, mais sauf que ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer. Ils seront châtiés dans l'enfer comme Allah le voudra, le temps que Allah le voudra, puis ensuite ils seront sortis de l'enfer, on les fera sortir de l'enfer. Ils ne vont pas y rester éternellement comme les kuffars et les mushrikins. D'accord? Après, le cheikh, il dit, قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة وهذا مثل ما سبق مثل ما سبق معنا في الحديث الذي دخل رجل النار في ذباب ودخل الجنة دخل الجنة رجل يعني في ذباب وهنا ذكر أنه بسبب هرة دخلت النار دخلت المرأة النار يعني حبستها حيث لم تؤمن لها ما يكفيها من الطعام والشراب فدل هذا على أن من أساء إلى البهائم أنه يؤخذ وأن عليه هذا الوعيد الشيخ الزي فلا ينبغي أن يستخف الإنسان بهذه البهائم فيظلمها لأن الظلم قبيح سواء كان مع البهائم أو مع غيرها. Le cheikh, il dit que cette femme est donc entrée en enfer à cause d'un chat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Et donc, on a vu dans les hadiths précédents, dans les cours précédents, qu'un homme est entré en enfer à cause d'un moustique ou d'une mouche. Et un autre est rentré au paradis à cause d'une mouche. Quand un d'entre eux a accepté de sacrifier une mouche à une idole, il est entré en enfer pour ça. Mais là, c'est l'enfer pour l'éternité parce que c'est du shirk. Tandis que l'autre est rentré au paradis parce qu'il a refusé de faire du shirk en sacrifiant une mouche et il est entré au paradis parce qu'il a été tué pour ça. Donc ça, c'est un exemple. Et ici, il y a un autre exemple qui est mentionné dans ce hadith qui dit une femme qui rentre en enfer pour un chaton. Pour un chaton. Donc ça veut dire que quelqu'un peut penser que mais c'est rien ça. Une mouche, un chaton, un chien, c'est des choses futiles. Et pourtant, c'est très grave parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait rentrer des gens au paradis et en enfer pour des choses comme ça. Donc, il ne faut pas voir les choses selon notre conception, comment nous on pense qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Il faut voir les choses, comment les choses sont pour Allah et pour son messager, tel que Allah nous l'a enseigné, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Et non pas de juger les choses selon les standards, comment les gens pensent, ou comment les gens jugent. Parce que beaucoup d'entre eux, des fois, ils peuvent ne pas prendre les choses au sérieux alors que c'est grave. Et ça nous indique aussi une chose, c'est que si tu vas prendre des animaux de compagnie pour rester chez toi dans ta maison, ça veut dire que tu devrais essayer de t'en occuper comme il faut, parce que si tu les tiens pas comme il faut et que tu t'en occupes pas comme il faut et qu'ils meurent à cause de toi, peut-être que tu vas avoir accumulé un péché à cause de ça. Donc il faut vraiment faire attention parce que c'est une responsabilité. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, Haythu lam yu'ammin, donc pourquoi elle est rentrée en enfer à cause de ce chaton? Parce qu'elle l'a attaché ou elle l'a enfermé et elle ne l'a pas laissé aller chasser. Parce que les animaux, c'est des chasseurs. Hein? Les chatons, surtout, c'est des chasseurs. S'ils vivent dans la nature ou en liberté, ils se débrouillent pour trouver leur nourriture. Ils attrapent une souris, ils attrapent un oiseau, ils attrapent... Hein? Une fois, j'étais en Arabie Saoudite. Là-bas, il y a beaucoup de chats dans la rue. Qui fouillent les poubelles, qui vivent dans les ruelles. Et un jour, j'en ai vu un, subhanallah, comment il a attaqué? Il a attaqué un pigeon. Oh là là, il l'a attrapé, puis il l'a mis dans sa bouche, là, puis il l'a tué. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Mais les animaux, les chatons, c'est des animaux, hein, c'est des chasseurs. Il ne faut pas oublier ça. Et subhanallah, la femme, elle l'a pas laissé aller dehors. Surtout que les gens ici, quand ils ont des chatons, c'est des chatons apprivoisés. Ça veut dire que souvent, ils leur font couper les ongles. Ils les ont gardés dans la maison depuis qu'ils sont bébés. Donc, si tu les mets dehors, même, ils vont peut-être même pas savoir. Même s'ils ont habituellement, ils ont un instinct hein, pour chasser. Mais s'ils n'ont pas pratiqué, hein, s'ils sont pas habitués, peut-être qu'ils ne vont pas être capables de se débrouiller. À la kulli hal, elle l'a regardé à l'intérieur, elle ne lui a pas donné rien à manger, puis elle l'a laissé mourir comme ça. Donc ça, c'est d'agir mal envers cet animal. Et donc, il y a une menace pour celui qui agit de cette manière-là. Il ne faut pas négliger ou diminuer l'importance de l'injustice que quelqu'un fait à des animaux. Tu penses que c'est quelque chose de simple ou de futile, alors que pour Allah c'est grave. Hein? Donc c'est pour ça il faut pas jouer avec ça. Et il dit que l'injustice, le cheikh dit l'injustice c'est quelque chose qui est laid, peu importe que ce soit fait à un animal ou à un être humain ou à autre. C'est vrai, l'injustice c'est toujours mauvais. Il dit, وفي الحديث دليل على أنه يجوز حبس البهائم بشرط أن يؤمن لها ما يبقيها على قيد الحياة من المأكل والمشرب فهذه المرأة لو أمنت لها ما يكفيها لما دخلت النار فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحبس الطيور والبهائم ولكن دون تعذيبها أو إهلاكها أو تعريضها للخطر. Le cheikh il explique que à partir de ce hadith là, on peut également établir la preuve que il est permis de garder des animaux, de garder des animaux en cage, mais à condition que on leur sécure ce qu'ils ont besoin pour les garder en vie comme nourriture. Et comme breuvage, comme eau. Et la femme ici, le cheikh il dit, c'est la preuve que si cette femme-là avait donné à ce chaton ce qu'il a de besoin pour boire et pour manger, elle n'aurait pas été en enfer à cause de ça. C'est-à-dire, pour ça, elle n'aurait pas été châtiée par l'enfer pour ça. Et ça, c'est la preuve qu'il est permis pour quelqu'un d'avoir des animaux en cage, comme des oiseaux ou d'autres bêtes. Du moment qu'il ne les torture pas et du moment qu'il ne les fait pas mourir et qu'il ne les met pas dans le danger. Oui, les os et tout ça, oui. Du moment que tu t'en occupes bien puis que tu fais attention yani, à leur santé puis que... Est-ce que c'est pour le sport qu'ils chassent ou bien c'est pour manger?
Pour s'amuser.
Allahu a'lam. Moi, qu'est-ce que je sais, c'est que la chasse est permis pour manger. Pour le sport, ça, je suis pas sûr. Allahu a'lam, j'ai jamais entendu ça. Donc, il faudrait que je pose la question. Ouais, non, si c'est juste pour. Non, c'est pas correct. Mais Allahu a'lam, comme je te dis, j'ai jamais lu de fatwa sur ça, donc je suis pas au courant en fait. Donc il faut que je cherche à savoir le jugement à ce sujet par rapport à la chasse. Naam. Et si je trouve la réponse, je te le dirai, Inch'Allah. Ouais, non, c'est pas mauvais d'apprendre à chasser. Il y a même un chapitre dans les livres de fiqh qui s'appelle As-Sayd et les règles, comment chasser dans l'islam. Donc il n'y a pas de mal à ça. Mais le problème, c'est de savoir quand tu chasses, est-ce que tu chasses juste pour te pratiquer à tuer les animaux ou bien tu tues l'animal dans le but de le manger. C'est ça qu'il faut voir aussi. Sinon, il y a des choses, si tu veux pratiquer, attirer, il y a des cibles que tu peux utiliser au lieu d'utiliser des animaux. Il y a d'autres choses que tu peux utiliser pour te pratiquer. Ouais, si tu le manges, c'est correct. Hein, sinon, c'est Allahu a'lam, comme je te dis, je ne sais vraiment pas. Mais on va poser la question, Inch'Allah. Ensuite, il dit, wa qawlu qawluhu qala az-zuhriyu. والزهري اسمه محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل قوله لأن لا يتكل أحد يعني لأن لا يتكل أحد على عمله بل ينبغي أن يخاف من الذنوب وإن كان مؤمنا فهذه امرأة مؤمنة دخلت النار بسبب هرة فلا ينبغي أن يأمن المؤمن ويتكل على عمله بل يخافه Le cheikh, il dit que l'imam Az-Zuhri, dans son commentaire, il dit pour pas que quelqu'un se repose uniquement sur ses actions, hein, et pour pas que quelqu'un non plus perde d'espoir, hein, à cause de ses péchés. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit l'imam Az-Zuhri, son nom c'est Muhammad ibn Shihab. C'est un parmi les grands imams de l'islam. Il est du même calibre d'imam que l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i. C'est le même degré dans la science et dans la piété. C'est un grand imam. La raison pourquoi il n'a pas un madhab qui est connu comme les autres, c'est parce que son madhab, il n'a pas été préservé de la même manière. Mais sinon, il est aussi grand que les autres dans la science et dans la piété. Naam. Et dans la science et la piété et la compréhension de l'islam. Il vivait même à la même époque, dans cette même époque-là. Et donc, l'imam Az-Zuhri, il dit, pour pas que les gens donc se reposent sur leurs œuvres. C'est-à-dire que les gens devraient toujours avoir peur de leurs péchés, même s'ils sont croyants. C'est pas de dire, par exemple, il y en a des gens, quand ils entendent des versets dans le Coran, quand Allah il dit, par exemple, à propos de l'enfer, il dit, « U'iddat lil kafirin ». C'est-à-dire, l'enfer a été préparé pour les mécréants. Il dit, ah ben moi, je ne suis pas un mécréant, donc je n'ai pas besoin d'avoir peur. Hein? Non, même si tu n'es pas un mécréant, tu dois avoir peur de l'enfer quand même. Parce qu'il y a des croyants qui vont rentrer en enfer aussi. Hein? Et aussi, en même temps, tu ne sais pas si tu vas être protégé contre la mécréance tout le temps. Peut-être qu'un jour, tu vas tomber dans la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Mais c'est un exemple qui pourrait être, se réaliser ou exister ou... Quelque chose comme ça, on en a vu. Hein, ça a existé, des exemples comme ça, des gens qui ont vécu dans la foi, puis qui sont morts dans le coffre. Hein? Donc, il faut faire attention à ça. Et le cheikh, il dit donc qu'une femme est entrée en enfer pour un chaton. Hein? Donc, il ne faut pas se sentir en sécurité de tomber dans le péché ou de faire quelque chose qui peut nous faire tomber en enfer. L'autre jour, c'est ça, je disais, le frère qui est venu me voir, qui m'a dit, ah, mon frère, t'as pas besoin de faire tout ça, t'es au paradis déjà, ça y est, c'est garanti pour toi. Hein, tu sais même pas, tu sais pas, tu peux pas dire ça. Une femme est entrée en enfer pour un chaton. Qu'est-ce qui te dit, toi, que tu vas pas rentrer en enfer pour quelque chose de plus petit que ça encore? Qu'Allah nous préserve, mais c'est juste un exemple. Et le cheikh dit aussi, il dit wa qawluhu wa la yay'as ahadun li anna yani li ajli anna hadhihi al-mar'a يعني بغية وكانت قد ارتكبت الكبائر من دون من الذنوب فلم تيأس من رحمة الله عز وجل وعليه فلا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمته عز وجل بل عليه المبادرة إلى التوبة قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Il dit, regardez par exemple l'autre femme, elle est entrée au paradis à cause d'un chien. Donc il ne faut pas perdre l'espoir. Hein? À cause de tes péchés, tu dis, ah, ça y est, c'est garanti que je vais être en enfer. Non, ce n'est pas vrai. Peut-être qu'Allah va te faire miséricorde à cause d'une bonne action que tu as faite. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit, même si quelqu'un il a commis des grands péchés, il ne doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il faut plutôt que. Il garde toujours l'espoir et qu'il se précipite à se repentir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, dit « Ô mon serviteur qui a transgressé contre son âme, yani, il a commis des excès contre son âme, il dit ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Et il dit pour terminer, وَحَدِثُ الْبَغِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِ لَا يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَهْمَ بَلَغَتْ ذُنُوبُهُ فَإِذَا تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْأَلَةُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ هِيَ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فقوله عز وجل رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا فيجمعون بين الخوف والرجاء فلا يخافون فقط ولا يرجون فقط وإنما يجمعون بينهما فمن خلال هذين الحديثين يتبين لنا هذا والشيخ لما ذكر الحديث الأول خاف على سامعه أن يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث الهرة الذي فيه التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء donc le cheikh il dit que dans ce hadith on voit que le hadith de la prostituée qui a abreuvé le chien il montre qu'on peut, on doit pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah peu importe tes péchés. Et du moment que tu te repentis à Allah, Allah va se repentir vers toi. Hein? Et il dit, c'est-à-dire Allah va se repentir vers toi, en voulant dire, il va revenir vers toi, il va accepter ta repentance. Et la question de la crainte et de l'espoir font partie des fondements de la foi. Et donc d'avoir peur d'Allah et d'espérer en sa miséricorde. C'est parmi les plus grandes formes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a même décrit ses prophètes. Hein, ayant ces caractéristiques. Hein, le verset 90 dans Surat Al-Anbiya, il dit au sujet des prophètes, ils se précipitaient vers le bien et ils nous invoquaient par espoir et par crainte. Hein, ou bien avec espoir et avec crainte. Et donc, ils réunissaient toujours la crainte et l'espoir. Et ce n'est pas juste avec la crainte et ce n'est pas juste avec l'espoir non plus, mais c'est les deux réunis. Et donc, à travers ces deux hadiths, hein, le hadith de la prostituée qui est entrée au paradis parce qu'elle a abreuvé le chien et de l'autre femme qui est allée en enfer parce qu'elle a empêché un chat de manger. Elle l'a laissé enfermer sans lui donner à manger. Ces deux hadiths-là, réunis ensemble, eh bien, ils nous font justement rester entre la crainte et l'espoir. Il dit que à travers ces deux hadiths, on voit clairement comment le cheikh a voulu en premier mettre la crainte hein, dans ceux qui vont l'entendre, hein, entendre le hadith à propos de c'est-à-dire le hadith à propos du chaton. C'est ça. Il dit parce que le cheikh, il a dit, si je mets seulement le hadith qui parle de la femme qui est rentrée au paradis à cause du chien, quand les gens vont l'entendre, ils vont se reposer sur ça et sur la miséricorde. Hein? Et ils vont se baser sur l'espoir seulement. Alors, il a rajouté l'autre hadith qui parle de la femme qui est allée en enfer à cause du chaton pour mettre la crainte en, avec cet espoir-là, pour qu'il y ait l'équilibre entre les deux. Et donc, les deux hadiths, ils se complètent hein, d'une certaine façon. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et peut-être juste mentionner un dernier point juste avant de terminer. Par rapport au hadith de la femme qui rentrait au paradis à cause du chien, alors que cette femme était une prostituée, il faut savoir une chose, c'est que cette femme, elle était parmi les gens du tawhid. C'est-à-dire que ce n'était pas une femme qui était parmi les gens du shirk. Donc peut-être que quelqu'un aujourd'hui qui ne comprend pas la réalité de l'islam, il va entendre que cette femme est entrée au paradis alors qu'elle faisait le shirk, alors qu'elle faisait du zina, et il va s'imaginer que, comme j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça une fois, et ça montre à quel point les gens sont ignorants de la réalité de l'islam, il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait rentrer une femme au paradis parce qu'elle a abreuvé un chien, donc il est bien capable de faire rentrer les juifs et les chrétiens et les mouchriquines et les koufars au paradis aussi. Comme si lui, pour lui, dans sa tête, que le fait de par exemple, de faire le zina, c'était moins pire que de faire le shirk. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris parmi les musulmans, à quel point le shirk, c'est le plus grave de tous les péchés qui efface tous les autres. Et que si quelqu'un, par exemple, il est sur le tawhid et la foi, mais qu'il commet des grands péchés, hein, eh bien, il peut toujours être pardonné. Tandis que s'il commet le shirk, même s'il ne fait aucun des grands péchés autres ou moindres que le shirk, eh bien, il n'a aucun espoir d'aller au paradis, comme les juifs et les chrétiens, par exemple, ou les mouchriquines ou les athées, hein, qui peut-être font beaucoup de bonnes actions, et peut-être qu'ils ne commettent même pas la fornication ou l'adultère. Peut-être qu'ils ne boivent pas d'alcool, peut-être qu'ils ne mentent pas, peut-être qu'ils vont pas, par exemple, manger de porc. Hein? Peut-être qu'ils vont être des gens qui font beaucoup de charité, qui aident les pauvres et tout. Mais malgré ça, ils vont être en enfer pour l'éternité à cause du shirk, à cause du kufr. Et ça, ça va faire en sorte qu'ils vont annuler toutes les bonnes œuvres qu'ils ont faites. Tandis que cette femme qui a fait le zina, elle faisait partie des gens qui croyaient en l'unicité d'Allah et qui n'avaient pas fait de shirk. Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné hein, son péché qu'elle faisait, malgré que c'était un grand péché, elle lui a pardonné à cause de ses bonnes œuvres et aussi, bien entendu, parce qu'elle était parmi les gens du tawhid. C'est ça qui est... C'est pas mentionné dans le hadith, mais c'est mentionné qu'elle faisait partie des gens de Bani Israël. Et les gens de Bani Israël, c'est des gens qui croyaient au prophète et au tawhid. Hein? C'est ça que beaucoup de gens ont négligé de comprendre par rapport à ce hadith-là. Donc c'était juste un rappel là-dessus, Inch'Allah. C'est vrai, des fois ils ne ramènent pas le hadith au complet, mais... Yani, ça fait partie des exemples qu'on voit souvent, comme tu dis, effectivement. Les gens, ils mentionnent juste une partie de la preuve et ils ne mentionnent pas le reste. Ce qui fait que tu restes à la fin avec une compréhension qui est incomplète. Donc, c'est bien de pouvoir justement retourner aux références puis de voir les preuves. Non. Des fois, mon frère, là, quelque chose peut être évident pour une personne et pas nécessairement évident pour une autre. Et aussi, ça dépend de d'autres facteurs. Moi, j'ai mentionné la proximité ou l'accessibilité de la science, mais il y a d'autres facteurs également qui peuvent être déterminants par rapport à l'ignorance d'une personne. Et c'est pas seulement des choses externes à la personne, ça peut être aussi des choses internes. Ça veut dire le niveau ou la capacité de compréhension de cette personne-là elle-même. Et ça dépend aussi du sujet dans lequel elle a eu des erreurs ou des problèmes. Si ça fait partie des sujets qui sont des sujets qui sont clairs ou des sujets qui sont difficiles ou compliqués ou subtil, hein, parmi les subtilités, et ainsi de suite. Donc, si c'est quelque chose qui fait partie des choses claires, comme qu'est-ce que tu dis toi-même, le fait qu'on doit juste adorer Allah et que la personne, elle adore des morts ou elle prie à des tombes, ça, c'est évident que c'est du shirk. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que des fois, les gens qui pratiquent ces choses-là, on leur a donné des shubuhat. Et c'est ces shubuhat-là qui les ont complètement mélangés dans leur compréhension de l'islam, qui leur a fait croire que ce qui est mauvais est bon. Et c'est ça l'affaire, en fait. C'est ça qu'il faut leur débloquer dans leur cœur. Et des fois, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça. Une chose peut être simple pour quelqu'un et difficile pour une autre. Donc, ça dépend. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu relatives aussi. Et puis, ça dépend du contexte. Ça dépend de plusieurs facteurs. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Regarde, je m'excuse de t'interrompre, mais juste pour te donner un exemple de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui n'a pas fait le takfir de certains parmi ceux qui ont dit que le Coran était créé. Alors que c'est un coffre clair, mais il sait, l'imam Ahmed, qu'il y a de la philosophie derrière ça, et que eux, ils n'ont peut-être pas saisi à quel point cette parole-là était grave. C'est pour cette raison-là qu'il ne les a pas déclarés koufars. Hein? Et donc, c'est pour ça que parfois, quelque chose peut sembler clair pour quelqu'un, alors que pour un autre, il n'a pas le niveau pour être capable de comprendre la complexité de l'affaire. Et par conséquent, yani, les ulama, c'est pour ça qu'ils distinguent entre les gens. Et ils traitent pas tout le monde de la même façon. D'accord? Tu vas dire, mais pourquoi il a fait le takfir de lui, mais il n'a pas fait le takfir de lui, alors que les deux ont dit la même chose? Parce que lui, il n'est pas comme lui. Les deux ne sont pas au même niveau. L'imam Ahmed, l'imam Ibn Taymiyyah, il disait, si moi je disais ce que vous dites, moi je serais mécréant, mais vous, vous n'êtes pas mécréant parce que vous êtes ignorant. Imagine. Donc ça c'est pas parce qu'il juge avec deux mesures différentes, non. Il juge avec la même mesure, mais il tient compte de certains paramètres qui sont différents. Et c'est comme ça qu'il y a des différences à cause de ça. Exactement. Exactement. Comme je te dis, ça dépend encore une fois. C'est les ulama qui vont juger sur ces choses-là. D'accord? Et donc, aussi, quand c'est des choses hypothétiques, des fois, on peut dire de façon générale des règles, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à chaque individu aussi. Et c'est pour ça que les ulama disent qu'il y a une différence entre ce qui est mutlaq et le mu'ayyan, et ainsi de suite. D'accord? Non. Ok, d'accord. Mais si tu veux, je vais te clore le cours, puis après on va commencer, Inch'Allah. Ok. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته